Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti ! Une impression d'usurpation, voire de nullité, un sentiment d'inadéquation, bravo, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Ou plutôt de l'impostrice, si vous êtes une femme ou identifiée comme telle. Et c'est encore pire si vous êtes LGBT+, racisée ou handicapée. Alors que peut le féminisme contre ce fléau ? On va en parler cette semaine avec toi, Kémis, salut !
Salut Clem, comment tu vas ?
Ça va, écoute, on a lancé un cycle d'événements avec Quoi de Meuf autour de la réappropriation. Donc vous pourrez regarder sur nos réseaux sociaux pour avoir la suite des événements.
Et d'ailleurs, on a même fait un atelier d'écriture érotique hier à la librairie de la Mouetterie, c'était super cool.
Trop bien.
Et puis sinon, moi, j'ai plein de projets en cours, donc j'ai hâte d'en parler.
Oui. Alors on va commencer par l'actualité féministe du moment. Il ne vous aura pas échappé qu'une publicité de la marque Fidamom a été censurée aux Oscars car considérée comme trop crue, je cite. Fatigue. Et depuis, en tout cas en France, le hashtag Mon Postpartum fleurit sur les réseaux sociaux pour parler notamment du corps féminin après l'accouchement, car les couches ne sont pas réservées aux nouveau-nés. Mmh. On parle aussi des cicatrices, du ventre qui ne dégonfle pas, des vergetures et encore des douleurs de l'utérus qui sont comme des contractions, etc. etc. Donc il y a beaucoup de témoignages. On vous invite à suivre ce hashtag sur Twitter. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc c'est d'abord un terme qui a été défini en 1978 par deux psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne Ament-Himes, dans un article appelé en anglais « The Imposter Phenomenon in High-Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Interventions », c'est-à-dire en français que le syndrome de l'imposteur, c'est d'abord le fait de se sentir inadéquat et pas légitime dans des situations données. C'est une question qui s'est notamment posée dans le monde du travail à propos de la perception de ses propres compétences.
Qu'est-ce que l'enfer ? Qu'est-ce que je fous là ? J'appartiens pas là !
Donc ce sont à la fois des émotions, des pensées et des comportements. Et donc on l'a dit, un sentiment d'illégitimité, d'inadéquation et souvent une incapacité à percevoir ses propres qualités ou à l'inverse, une propension à surestimer ses failles ou ses lacunes qui est très présente chez les femmes, les minorités de genre et les personnes racisées.
Hello !
Coucou, c'est nous. Et donc les personnes qui ressentent ce sentiment ont tendance à rejeter les compliments et l'approbation parce qu'en fait, elles n'ont pas une vision juste de leur talent ou de leur capacité. Et par ailleurs, elles ont aussi la peur panique d'être découvertes, que leur médiocrité soit découverte.
Je suis sûre que ça rappelle beaucoup de choses à beaucoup de gens, y compris dans cette pièce. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est aussi un phénomène qui est partagé par de nombreuses personnes, donc des anonymes et des personnes qui sont plus célèbres. Il y a Maya Angelou qui a fait une interview dans le New York Times et à la sortie de son 11e livre, donc quand même Maya Angelou, 11e livre,
tout va bien.
Elle s'est quand même dit « Oh là là, ils sont sur mon dos, ils vont tout découvrir. »
Albert Einstein experienced something similar. He described himself as an involuntary swindler whose work didn't deserve as much attention as it had received.
Donc c'est vraiment un mal qui est répandu. Selon le Journal of Behavioral Science, une étude récente a révélé qu'environ 70% des personnes dans le monde souffrent du syndrome de l'imposteur à un moment de leur parcours.
Ça fait du monde tout ça.
C'est clair. Bah après, ça devient facilement une appellation fourre-tout qui recoupe un peu tout et n'importe quoi. À tel point que le site satirique Reductress s'en moque dans un quiz qui s'appelle « Are you good enough to have imposter syndrome ?» Donc, ce qui veut dire, est-ce que t'es assez bien pour avoir le syndrome de l'imposteur ? Dans ce test, le journaliste pose une question. Est-ce que tous les jours, tu te bats et tu avances vers tes buts et tes objectifs ? Donc, il y a une réponse. Oui, je passe des heures avant et après mon boulot lambda pour être sûr que je consacre un max de temps pour obtenir mes objectifs. Et puis, oui, mais peut-être que j'y passe pas assez de temps, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui passent assez de temps, plus de temps que moi, peut-être que je travaille pas assez pour atteindre mes objectifs, peut-être que je suis juste nulle en fait.
Voilà, Les deux réponses sont fausses, je pense.
No, God, please, no, no!
Et alors, pour revenir aux deux psychologues dont on parlait, elles écrivent que le phénomène d'imposture a lieu chez les personnes qui ont du succès et qui n'arrivent pas à internaliser leur réussite et qui la vivent mal. Il et elle attribuent leur reconnaissance à la chance plutôt qu'à leurs compétences. Donc, pour résumer, dans le syndrome de l'imposteur, il y aurait plusieurs caractéristiques, notamment que celui-ci soit caché. Donc, peu de personnes en parlent de peur d'être découvert et découverte, selon l'American Psychological Association. Souvent, c'est quelque chose qui est hérité de l'éducation et de la famille, qui va avoir un double langage, à la fois en encourageant le succès, mais aussi en étant très critique. Donc ça peut créer ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Mmh. C'est aussi évidemment amplifié par le fait de se sentir différent ou différente, donc comme c'est le cas parfois avec les personnes LGBT ou les personnes racisées. Ça s'accompagne fréquemment d'une qualité qui est le perfectionnisme. Ça peut aussi devenir un cycle de torture où on va penser qu'on mérite en fait toute cette souffrance.
C'est voilà.
C'est un super cercle vertueux.
C'est clair.
Et évidemment, ça peut créer un terrain dépressif. Ouais, on y reviendra.
Au début, on a cru que c'était réservé aux femmes. Et c'est d'ailleurs le cas. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par le syndrome de l'impostrice. Mais les injonctions de la performance masculine et en fait de la virilité en général, aussi cet effet qui peut booster, soit justement paralyser les hommes en général. Et puis je pense que c'est important aussi d'exprimer en fait la dimension raciale que peut prendre le syndrome de l'imposteur ou l'impostrice. Il y a des cas spécifiques, notamment une étude qui a été faite par des chercheurs et des chercheuses de l'université du Texas à Austin, et qui montre que parmi les minorités à la fac, les étudiants d'origine asiatique ressentaient encore plus le sentiment d'imposteur ou d'impostrice que les étudiants latino, latina et afro-américains. C'est important aussi de comprendre que dans un monde occidental où les figures du savoir, que ce soit les experts qui sont invités dans les médias, que ce soit des universitaires ou même des figures d'autorité même dans le plus jeune âge, hein, sont souvent incarnées par des personnes blanches et notamment des hommes blancs, c'est extrêmement difficile de considérer son propre savoir et sa propre expertise comme étant légitime en fait. Surtout quand on sait que le système raciste, c'est quand même un système qui a hiérarchisé des populations et qui a créé, et qui crée encore d'ailleurs, qui alimente pendant des siècles, des discours qui visent à dénigrer les capacités intellectuelles et l'apport culturel de catégories qui ont été racialisées, quoi.
Moi, je pense que tu as raison de le rappeler. Et donc, parmi ces composantes, on a vu qu'il y avait donc une dimension genrée, une dimension raciale. Il ne faut pas oublier de parler de la dimension et du rapport de classe dans le sentiment d'illégitimité. D'ailleurs, l'autrice Nathalie Ola, qui a écrit « Steal as much as you can », qui n'est pas traduit en français, mais qui veut dire « voler autant que vous pouvez ».
J'adore le titre.
Elle parle d'une tentative d'individualiser un problème qui, en réalité, est structurel, puisqu'en fait, le syndrome de l'imposteur fait reposer sa charge sur les travailleurs et les travailleuses marginalisées, que le système va ensuite pousser à douter d'elle-même. Voilà, donc tout ça se mord un peu la queue.
Et puis, ce système de l'imposteur ou de l'impostrice, on le voit aussi très bien dans le monde professionnel. Hein. On voit qu'au travail, on a un manque de légitimité dans la prise de parole. On voit que tu as des chiffres qui montrent que quand les hommes envoient des CV pour des jobs où ils sont qualifiés qu'à 20%, alors que dans le même temps, des femmes n'envoient pas du tout leur CV alors qu'elles sont surqualifiées. On note vraiment aussi cette dimension genrée dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pareil pour demander une promotion. L'essai de Mary Bird, Les femmes et le pouvoir, le montre très bien en fait.
What would it take to resituate women on the inside, not the outside of power?
Le monopole masculin se retrouve renforcé par ce syndrome de l'impostrice, donc l'imposteur féminin, qui est le produit de ce déséquilibre et qui contribue à l'aggraver.
Ouais. Donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux. Et alors, il y a un phénomène aussi qui a émergé assez récemment grâce à la presse américaine. C'est ce qu'on a appelé l'imposture maternelle. Donc, à propos de la maternité et d'un sentiment de ne jamais être à la hauteur, quoi qu'on fasse. C'est la comédienne américaine Casey Wilson qui a écrit une tribune dans le New York Times en racontant comment son fils bébé a été malade et à quel point, en fait, elle s'est remise en question à cette occasion, au lieu de simplement écouter son instinct. Et donc elle écrit: Est-ce que c'est ma faute? Est-ce qu'il va être traumatisé si j'écoute Kanye West? Etc, etc. Oui, peut-être, c'est possible.
I am a god. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de repolitiser le syndrome de l'imposteur. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas juste un symptôme individuel, mais c'est un fait social. C'est bien, comme d'habitude, la faute au capitalisme et donc à l'organisation du travail.
Surprise!
C'est d'ailleurs ce qu'explique le blog dessiné Socio-BD, qui lui prend le cas de la recherche en milieu universitaire. Il suffit de discuter avec quelques chercheuses, beaucoup sont celles et ceux qui souffrent d'un syndrome de l'imposteur, dit-il. D'ailleurs, c'est parce que aussi le monde universitaire, c'est un monde où il y a beaucoup de solitude dans le travail, il y a une très forte concurrence, et le contexte n'aide pas du tout. Il y a une précarisation, il y a contraintes de la recherche, il y a aussi le propre de la recherche, c'est-à-dire le doute. Et les deux personnes qui tiennent le blog le dessinent comme une petite voix dans ta tête qui te dit des trucs négatifs pour te diminuer et qui te rend fou ou folle. Et en face, il y aurait le syndrome du génie. Donc c'est celui qui ne doute jamais et je le genre bien puisque c'est souvent un homme.
Oui, et donc effectivement, ce problème sociétal et structurel peut aussi être soit anecdotique, soit avoir des conséquences individuelles sur les trajectoires professionnelles, mais aussi sur la santé mentale. Alors, ce n'est pas classé comme étant une maladie psychiatrique, mais ça fait partie de ce qu'on appelle en psychologie les formes de doute de soi. Et ça peut d'ailleurs accompagner ou provoquer des symptômes d'anxiété et ou de dépression. D'ailleurs, un chercheur français en psychologie en a fait le sujet de sa thèse en 2016. C'est Kevin Chassangre, et lui, il parle en fait de modestie pathologique. Il écrit « Malgré sa prévalence, peu d'études s'intéressent au caractère pathologique de ce syndrome, et encore moins à chercher des outils d'accompagnement adaptés. » Donc en fait, on voit bien que ça a beau être très répandu, il y a quand même un vrai manque pour aider très spécifiquement et soigner ce problème-là chez les individus.
Alors, vous nous avez envoyé vos avis sur la charge mentale qu'occasionne le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Donc, il y a Gab qui nous dit l'effet du biais de stéréotypes négatifs. Lutter contre la dissonance cognitive engendrée par le stéréotype capte de l'énergie qui pourrait être mise dans l'action. Résultat, on s'épuise et les performances sont pas si bonnes. Et d'ailleurs, ça entretient le stéréotype.
Bah, bien sûr.
Ce que nous propose Gab comme antidote, c'est de remonter à la source du stéréotype pour le déconstruire. Et puis l'inconvénient, c'est que ça prend du temps, ça fait mal et parfois ça prend même de l'argent.
Et oui, il y a aussi Thomas qui nous a écrit en disant « Depuis toujours, tout le temps, j'essaie d'apprendre à vivre avec en me disant que douter constamment de son travail, c'est déjà le signe qu'on veut être à la hauteur, bien faire. Et c'est justement sans doute un peu comme ça qu'on fait bien. » Il y a également Sarah qui nous a envoyé un message en disant « enclenche un processus de sabotage obligatoire pour être bien sûr d'être dans l'échec. » Voilà donc un exemple de dynamique et de petite mécanique mentale assez toxique qui se met en branle dans nos cerveaux. Et quid des nôtres, justement? Est-ce que tu peux nous raconter, toi, de ton côté, Kémis, comment est-ce que tu gères le syndrome de l'imposteur et est-ce que tu en as fait l'expérience?
Bah, je suis trop contente qu'on fasse cet épisode parce que c'est toute ma vie, en fait,
c'est
le syndrome.
C'est la life.
C'est ma life.
I felt that. Et non, on ne vit pas sa meilleure vie
non,
avec ce syndrome.
Pas du tout. Au contraire, je crois que c'est l'anti-meilleure vie, le syndrome de l'imposteur ou l'impostrice. Parce que pour le moindre des trucs, j'ai l'impression d'être nulle, de pas être à ma place. Et comme je le disais tout de suite, hein, c'est très paralysant en fait chez moi. Ça me crée de l'anxiété, voire pire.
Non.
Coucou, ce qu'on disait avant. Et du coup, j'ai de la chance en fait d'être super entourée par des gens qui sont géniaux et qui me boostent et qui me répètent les compliments. Parce que oui, ça ne rentre pas ni la première ni la dixième fois. Et j'essaie de me dire que des chroniqueurs racistes que je ne citerai pas ici n'ont pas l'air de souffrir de syndrome de l'imposteur, alors pourquoi pas moi? Et puis
j'avoue.
Non mais sérieux.
Laissez la place.
C'est la médiocrité everywhere. Et puis aussi le fait d'avoir suivi les conseils d'une super psy et d'une coach comme Marie da Silva, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Parfois on se culpabilise en fait de se sentir mal, on se culpabilise aussi de ne pas incarner la femme forte entre guillemets, blindée, qui déconstruit tous les biais, alors qu'en fait c'est super dur, voire même impossible. Et c'est pour ça que c'est super important, je pense, d'être accompagnée dans le traitement de ce syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, et qu'il faut pas du tout le prendre à la légère en fait.
Oui, puis je pense que c'est bien d'avoir un autre regard qui nous renvoie une vision un peu plus réaliste, en fait, de ce qu'on est.
Carrément, ouais. Et toi, c'est quoi, du coup, ton expérience de syndrome de l'impostrice ?
Bah, comme toi, mais différemment. Moi, j'ai vécu en étant la seule française dans une classe américaine, en étant une femme dans la critique ciné. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'arrive à chaque fois que je change de travail en mode crise de panique. Je me dis que je suis nulle, je vais jamais y arriver. Pourquoi on m'a embauchée moi et pas quelqu'un d'autre ? C'est bizarre, voilà. Je pense qu'on peut aussi en parler en fait à propos de ce podcast parce que toutes les deux, on se pose aussi souvent la question de notre légitimité à prendre la parole.
Carrément.
Surtout à l'heure où les mouvements féministes sont en train de se déchirer et de s'interroger sur toutes ces questions-là.
Ouais.
Pour faire mon diagnostic, mais ça c'est très personnel, pour moi, le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice, c'est un peu comme l'anxiété, puisque d'ailleurs, ça, moi en tout cas, ça va avec.
C'est clair, moi aussi.
C'est une erreur d'appréciation et de jugement sur une situation donnée et aussi sur notre propre valeur et nos capacités. Et il y a un peu deux pôles extrêmes, je trouve, dans lesquels on tombe. Donc soit on verse dans l'indifférence en se disant « bah en fait, tout le monde est interchangeable, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ? En fait, on s'en fout de tout, plus rien n'a de sens. » Soit, à l'inverse, on tombe un peu dans le drama. Et donc j'ai l'impression que c'est à la fois un surinvestissement de l'ego et en même temps un sous-investissement de l'ego, et que ça s'accompagne à la fois de culpabilité, donc ça c'est la culpabilité, c'est un sentiment qu'on a par rapport à soi, et aussi de honte, qui est un sentiment par rapport aux autres.
Mmh.
Et comme tu le disais, une bonne idée, c'est d'en parler autour de soi, et donc voilà, d'avoir un autre regard, un autre discours, donc soit un psy, soit un coach, soit à des collègues ou à des amis qui en fait vont vous remettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est très utile voilà, de ne pas rester...
toute seule.
De ne pas ressasser ce genre de pensée. Moi, j'essaie de ne pas non plus être kamikaze, hein, je ne suis pas folle. Mais en fait, maintenant, quand on me propose un truc que je ne connais pas, je me dis que je vais plutôt dire « Ok, ouais, c'est bon, je connais, c'est bon, je gère. » Même si ce n'est pas du tout vrai. Donc, c'est vrai que ça peut mettre un peu dans la merde, mais en général, ça passe quand même. Faut pas en abuser. Mais bon, je pense que ça vaut le coup d'essayer.
Ouais.
Et voilà. Et moi, c'est vrai que souvent, comme je disais, j'oscille un peu entre deux scénarios. Soit le scénario catastrophe du pire où on anticipe que rien ne va fonctionner. Soit la méthode couée où on se rassure. Et en général, c'est toujours un petit peu entre les deux.
Mmh.
En général, voilà, ça se passe plutôt bien. C'est pas génial, c'est pas une catastrophe, mais ça va.
Ouais.
Et je pense que ça a aussi un intérêt... parfois, ce syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, si on savait déjà tout faire parfaitement, je pense qu'on s'ennuierait énormément et qu'on est aussi là pour apprendre. C'est aussi pas mal de faire des choses qu'on connaît pas, c'est assez stimulant, évidemment, sans se rendre malade. Voilà.
C'est clair, ouais.
Et alors, on va écouter maintenant le témoignage de Lulu, qui est metteuse en scène d'un spectacle de marionnettes qui parle précisément de ce sujet-là et qui s'appelle L'imposture. Et elle va nous parler de cet autoportrait fictionnel.
Donc, en fait, je commence le spectacle en disant « je suis grosse, lesbienne et marionnettiste », et je dis voilà, c'est les trois grands thèmes du spectacle. Donc en fait c'est ça, ça raconte l'histoire d'une petite fille grosse qui grandit dans un milieu rural et qui veut être un garçon pour pouvoir faire du foot, qui découvre son homosexualité dans une société hétéronormée. Puis après ça raconte aussi l'adulte toujours grosse qui décide de devenir marionnettiste. En fait, j'avais des difficultés en tant qu'actrice et marionnettiste. J'avais des blocages et je commençais vraiment à perdre confiance en moi. Du coup, j'ai commencé à me demander si je voulais vraiment faire ce métier, si j'en étais capable, si c'était voilà vraiment ça l'endroit où je voulais être. Et j'ai eu une remise en question qui m'a vraiment poussée à me demander ce que je voulais vraiment faire dans ma vie d'artiste et ce que j'avais vraiment besoin de faire et de dire. Et du coup, j'ai réalisé que j'avais vraiment une urgence à dire des choses. J'avais des choses à questionner, à exprimer, à raconter. Donc moi, je suis, donc je l'ai dit, marionnettiste. Je réfléchis beaucoup par l'image pour figurer, par exemple, pour figurer le sentiment d'imposture que je ressentais quand j'étais enfant, notamment parce que voilà, j'avais envie d'être un garçon et qu'on me demandait de mettre des robes. J'ai choisi une marionnette qu'on appelle les marionnettes Kokoschka, qui est une marionnette, en fait, c'est un très petit corps, ou un petit corps articulé, comme une marionnette, mais on met c'est la tête du marionnettiste. Donc ça crée une sorte de décalage assez intéressant, et je trouvais super que ça soit cette marionnette qui représente la petite fille que j'étais. parce que ça permet de faire naître des images voilà, poétiques ou mélancoliques, mais aussi drôles. Par contre, c'est clair que notre société voilà, hétéro-patriarcale, avec ses normes et ses injonctions, ne fait à mon avis que renforcer le sentiment d'illégitimité ou l'absence de confiance des femmes et des minorités. Enfin, ça me paraît assez évident.
Merci à Lulu pour ce témoignage. Et alors, est-ce qu'on a des conseils à dispenser
Carrément, bah, tu parlais tout à l'heure de la méthode Coué, hein, c'est un peu le côté fake it until you make it. Donc, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Du coup, y a un peu ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure sur la méthode Coué. D'ailleurs, je me reconnais dans beaucoup de choses que tu as dit. Mais il y a aussi le fait de se dire que, en fait, ce qu'on réalise, et même nos victoires, en fait, elles ne nous définissent pas. Et comme nos victoires ne nous définissent pas forcément, et ben, nos échecs ne nous définissent pas non plus forcément, quoi. Et je pense que ce qui est le plus dur aussi, et ce qui joue beaucoup dans le syndrome de l'imposteur et l'impostrice, c'est clairement de se comparer aux autres. Et effectivement, tout le monde le dit, hein, il ne faut pas se comparer, bon, on se compare toujours. Mais quand on a un peu conscience de le faire, en fait, que ce n'est pas un réflexe, et ben, il faut se dire, bah, ok, je souffle, je respire, et tout le monde est différent, et tout le monde a ses échecs, et tout le monde a ses victoires. Et puis,
oui, voilà. On n'est pas obligé de s'identifier effectivement à ses échecs.
C'est ça.
En tout cas, faites-vous aider, ce n'est pas une honte de se faire épauler, on ne le répétera jamais assez.
C'est clair.
C'est une question de santé publique. Faites-vous du bien et faites C'est du clair. Bien aux autres, épargnez-nous, s'il vous plaît.
Soignez-vous.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop. Culture.
Alors, pour parler un peu de pop culture, je pense qu'on peut recommander de lire et de relire des biographies de stars d'hier et d'aujourd'hui qui racontent souvent leur parcours. C'est-à-dire qu'il et elle étaient très motivés, mais en fait n'avaient absolument aucune idée de ce qu'il et elle faisaient ni de où il et elle allaient. Mmh. C'est finalement assez rassurant en fait de voir que Jennifer Lopez, Natalie Portman ou Meryl Streep ont pu ressentir à un moment ou à un autre le sentiment d'imposture.
Même Michelle Obama. Mal ressenti, quoi.
C'est ça, donc tout est possible. Et d'ailleurs, l'actrice Jodie Foster, quand elle a reçu un Oscar,
and the Oscar goes to Jodie Foster, The Silence of the Lambs.
Pensait jusqu'au dernier moment qu'on allait venir chez elle et lui reprendre sa statue. Il y a aussi la comédienne Amy Poehler de la série Parks and Recreation qui nous donne son avis sur la question. Je la cite, elle dit « Quand vous escaladez la montagne de la carrière, en fait, vous n'arrivez pas en haut en criant « ça y est, j'ai réussi ». En fait, vous vous sentez assez souvent satisfait ou même ayant du succès. Et la plupart des gens qu'elle connaît, dit-elle, luttent avec cette soupe de sentiments compliqués qui va de la légèreté d'un côté à la fraude et à l'imposture de l'autre côté.
Ok, bah on n'est pas seul. Je trouve qu'il y a un exemple qui date un petit peu maintenant, mais qui nous donne une belle vision finalement de ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. C'est la série Ugly Betty.
I like your poncho. My dad got me one in Guadalajara.
Milan, Dolce & Gabbana, fall.
Je sais pas si tu te souviens, petit pitch rapide. Donc c'est cette jeune femme qui vient du Queens, qui a un appareil dentaire, qui est censée être vue comme moche, je mets plein de guillemets, et qui va travailler dans une industrie de mode. Et en fait, dans la série, que j'ai trouvé assez bien fait, c'est qu'au début, on la voit, elle est en manque de confiance en elle, etc., etc. Mais à force d'aventure et à force de responsabilité qu'on lui donne, et finalement, elle apprend à se valoriser, et à la fin, elle surmonte tout à fait, en fait, son sentiment d'inadéquation dans le monde de la mode. Et donc, je trouve que ça date un peu, mais ça illustre bien, en fait, ce que c'est d'être une femme racisée, hors des codes de la beauté, dans une industrie de la mode, et ça, on peut l'appliquer à tout, un petit peu.
Oui, série bonne pour le moral. On peut aussi recommander de visionner une autre série qui est plus récente, qui s'appelle The Morning Show, qui est diffusée sur Apple TV en ce moment, et qui parle des effets très concrets du mouvement MeToo à la télévision américaine. Donc, on suit une jeune femme sortie de nulle part, jouée par Reese Witherspoon, qui va être nommée coprésentatrice d'une émission nationale avec Jennifer Aniston et donc va devoir gérer ce parachutage tout à fait imprévu, avec brio évidemment.
Just think I'm gonna do this?
This chair could be yours.
I don't
don't want your job.
Et puis on a l'exemple de Issa dans la série Insecure qui
porte bien son nom.
Qui porte parfaitement son nom. Donc Issa, c'est une jeune femme en fait qui est remplie de beaucoup de doutes dans un environnement professionnel où elle est. En fait, c'est l'une des seules femmes racisées dans une asso qui veut aider la entre guillemets communauté dans un quartier qui est en pleine gentrification. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui sont super intéressantes.
School tutoring, mentoring programs, community service, standardized test coaching, big brother, big sister, and just general filling in the cracks.
C'est très difficile pour elle de reconnaître ses compétences et ce sentiment, il est vraiment encore plus flagrant dans la web-série qui a inspiré du coup la série Insecure, qui est également créée par Issa Rae.
Oui, et la dernière série qu'on peut mentionner, c'est You're the Worst, dans lequel le personnage féminin, celui de Gretchen, va faire une dépression.
If I biffed a tennis match, she would take away my sheets and pillows. But that is what made me strong. My friends had chill parents who didn't push them, and now they're all unmotivated babies.
Tout en étant cornaquée par sa mère, une sorte de grande bourgeoise coincée, voilà, qui va contribuer à son sentiment de mal-être et d'inadéquation. Voilà, on vous laisse regarder. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci ?
Alors, ce mois-ci, j'ai commencé l'essai de Mabula Soumaoro qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone. Il vient juste de sortir aux éditions de La Découverte. Donc, en fait, c'est un essai qui est écrit par cette universitaire française sur la question de la race et du genre et sa perspective de personne afrodescendante dans les mondes atlantiques. Donc, c'est mélangé entre la politique, son vécu personnel. C'est très bien écrit. Donc, franchement, je dis un grand oui, quoi.
Merci, mais écoute, c'est bien noté.
Et toi, tu nous recommandes quoi, toi ?
Alors moi, c'est une BD qui s'appelle « C'est comme ça que je disparais » de Myrion Mal. Myrion Mal, on s'en souvient, c'était l'autrice de « Commando culotte » et de « La Ligue des super féministes ». Et là, elle a écrit et dessiné sa première fiction qui parle, ça tombe bien, de santé mentale et de dépression. Mmh. Et donc l'histoire suit Clara, qui est une jeune poétesse qui travaille dans une maison d'édition à Montréal et qui va traverser d'abord une rupture amoureuse déchirante et vivre ensuite une dépression plus boitée, enfin en demi-teinte, puisqu'elle va se sentir indifférente à tout et pas forcément pleurer au fond de son lit. Voilà. Tout ça est très bien montré et c'est publié par les éditions La Ville Brûle.
Ben, ça donne envie.
Allô, allô,
allô, allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, une fois n'est pas coutume, on a reçu le message d'un homme que l'on va vous lire. Donc,
oula,
c'est Antonin qui nous écrit, on se prépare au pire. Salut les filles, je viens d'écouter votre épisode sur les poils. Oui, j'ai un peu de retard, j'avoue, désolée. Je viens vous faire un témoignage à ce niveau. Je n'ai pas de problème avec les poils, mais ma copine n'aime pas ses poils, surtout quand vient l'été. Du coup, pour la décharger un peu à ce niveau-là, très tôt dans notre relation, je lui ai proposé de m'occuper de faire l'esthéticien. Elle a accepté et depuis, je m'occupe de lui raser les jambes et le pubis. Elle préfère le raser en lui préparant un café et pendant qu'elle regarde sa série du moment. J'adore votre émission, elle m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma vie de tous les jours. J'essayais déjà avant de faire des choses à la maison, mais depuis que j'ai commencé à vous écouter, depuis le 3e épisode, j'ai pris en charge à la maison la lessive et le ménage et je vois que ma compagne est bien moins fatiguée depuis. Voilà, merci Antonin pour cette petite publicité gratuite que tu nous fais. On espère que ta vie conjugale s'en trouve améliorée. Qu'est-ce que t'en dis, toi ?
Ben, je trouve ça super, hein, j'ai pas de jugement à faire. Moi, ce que je te demande, Antonin, c'est de faire de la propagande autour de tes potes et plus généralement de ton entourage masculin. Ce sera encore mieux si vraiment tu le diffuses à tous tes potes, mec. Et comme ça, s'ils en sont pas au point de faire l'esthéticien, ils peuvent commencer à donner des sous à des collectifs féministes et mieux traiter toutes les femmes. Et surtout, pas seulement celles avec qui ils ont un rapport affectif, sinon c'est de la triche. Parce que traiter mieux toutes les femmes et abolir le patriarcat, c'est quand même le but.
J'avoue. Alors en tout cas, c'est tout pour cette semaine. Vous pourrez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Dites-nous si vous éprouvez le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice et comment vous le combattez. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Salut, merci Kémis.
Salut Clem.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo.
Et présenté par Kémis.
Monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son et coordination Ashley Tola.